Alors, si vous voulez vous lever, on va lire aujourd'hui les versets 4 à 6 du chapitre 20. Et Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Je vais s'asseoir. Alors, ceux qui ont les notes, vous avez le titre, je marquais comme surtitre, de façon parallèle avec le fait que Satan est enchaîné et restreint. Pourquoi j'ai marqué ça? Parce que c'est pour nous rappeler que les trois premiers versets qu'on avait étudiés dans les deux dernières semaines, on avait vu ce fait-là, que Satan avait été enchaîné et restreint pour le temps que l'Évangile se diffuse. Mais ce que les Écritures veulent qu'on voit, c'est qu'en même temps que ce phénomène se passait là, de façon parallèle, alors ça c'est ce qui se passait comme sur la terre, parce que ça se passe sur la terre, la diffusion de l'Évangile, mais le Seigneur veut nous montrer l'aspect céleste. Qu'est-ce qui se passe en attendant que toute cette action-là sur la terre se passe? Alors, c'est vraiment l'idée, c'est les âmes des croyants décédés qui règnent avec Christ pendant 1000 ans. On avait regardé la semaine dernière, on avait vu que le 1000 ans, selon les auteurs que j'utilise et que je crois qu'ils sont corrects, le 1000 ans, c'est pas un 1000 ans littéral. Tout là vient la différence d'interprétation. C'est pour ça que ce passage-là, Apocalypse 20, 1 à 6, c'est un des passages les plus controversés de toutes les Écritures. Ce que c'est pas facile à exposer, là, parce qu'il y a beaucoup de grands théologiens qui ont touché à ça, puis ils n'ont pas tous la même opinion. Puis c'est toutes des... Quand on regarde, si vous avez regardé la semaine dernière les feuilles que je vous avais données, vous avez, avec les quatre grandes positions, les noms des théologiens qui avaient défendu cette position-là. Moi, je trouve que quand on regarde ça, ça nous ramène un petit peu dans l'humilité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir notre opinion, mais ça veut dire, regarde ce que des grands hommes ont pensé, puis ils ont pensé différemment sur ce passage-là. Alors, gardons-nous une petite gêne, comme on se dit, mais ça ne veut pas dire abandonne, puis n'aie pas ta propre opinion, en la fondant sur le plus possible sur ce qui est dit d'intelligent et de juste, dans les versets. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est vraiment le règne des âmes avec Jésus, ses bénéficiaires. Qui va régner avec Jésus pendant que toute l'action, pendant que nous, on fait de l'action de faire avancer l'Évangile sur la terre? Au ciel, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des bénéficiaires. Ceux qui sont au ciel, ils règnent déjà avec Christ. On va voir, on va développer les idées tantôt. Donc, ces bénéficiaires... Le règne des âmes avec Jésus, qui bénéficie de ça? Ceux qui sont déjà décédés, soit que c'était des martyrs qui ont connu la mort à cause de leur foi en Jésus, ou soit des personnes qui ont été des chrétiens au cours des siècles, qui, à mesure qu'ils décèdent, rentrent dans la présence de Dieu. C'est de ceux-là qu'on parle. Alors, puis le règne des âmes avec Jésus, le verset 5, j'ai marqué ses exclusions. Autrement dit, c'est pas les âmes de tous ceux qui sont décédés. Il est en train de dire que ceux qui ont adoré la bête, ceux qui ont adoré, eux sont exclus. Ils ne sont pas dans la game, autrement dit. Ils ne sont pas avec le Seigneur. Et le dernier point, le verset 6, c'est que là, dans le verset 6, on explique un peu quelle fonction... Quelle activité ces gens-là ont dans le ciel actuellement en attendant que tout soit terminé? Alors, dans notre étude précédente, qu'on avait vu les versets 1 à 3, on avait conclu que les 1000 ans avaient un sens symbolique. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'à partir de la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à la fin complète où le Seigneur va détruire tous ses ennemis et qu'on va rentrer dans l'éternité et et les corps vont être ressuscités, ceux qui sont croyants pour la vie éternelle avec leur corps, ceux qui sont incroyants, eux aussi vont recevoir leur corps et ils vont aller en enfer pour l'éternité. Alors, par décret divin, Satan et ses anges déchus, on a vu la semaine dernière dans les versets 1 à 3, qu'ils avaient été enchaînés durant toute la période du millénium. Et on définit la période du millénium comme étant la période débutant après la résurrection et se terminant jusqu'à la fin. Très important de saisir ça, sinon le millénium, si on le prend 1000 ans, littéral, à quelque part, on est obligé d'être... on ne peut pas suivre la position amillénariste, comme on dit. Alors, les versets 1 à 3 signifient que Satan se voit empêché par Dieu de garder les nations dans les ténèbres spirituelles. Satan chercherait, aimerait bien ça, être capable de le faire. Mais Dieu, par décret, a décidé que Satan ne serait pas capable, avec son armée d'anges déchus, d'empêcher que l'Évangile se développe sur la terre jusqu'à son retour. Alors, il ne peut pas non plus stopper l'effort missionnaire. On sait qu'au cours des siècles, quand on regarde depuis Paul, puis si vous étudiez l'histoire de l'Église, vous allez voir qu'il y a toujours eu des chrétiens qui ont voulu aller soit dans d'autres pays ou à l'intérieur même de leur pays pour essayer d'annoncer l'Évangile. Puis des fois, ça les a coûté, comme on dit, très cher. Pour certains, ça a été le martyr. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, ça fait dresser les cheveux de sa tête, pour ceux qui en ont. c'est vraiment quelque chose de... je dirais que quand vous étudiez, disons, des périodes comme l'Inquisition, vous faites juste regarder les images. J'ai déjà regardé un livre d'images. C'était juste des dessins. T'as pas des photos, il n'y avait pas de photos à l'époque. Mais quand tu regardes les images de ce qu'ils faisaient à ceux que les catholiques croyaient comme étant des hérétiques, c'est à peine soutenable. Même regarder les images, c'est à peine soutenable. Alors, il y en a qui ont que leur foi en Jésus, ça leur a coûté vraiment très cher en termes de souffrance physique et même la mort. Mais ça veut tous les autres qui ont traversé les siècles, qui ont été souvent maltraités, emprisonnés, battu. On en comptait ce matin, on parlait d'affaires qui s'étaient passées au début, dans le temps de Chiniki, par exemple. Et on virait les autos à l'envers, on faisait la vie dure, on excluait quelqu'un de la société, on faisait une multitude de choses pour rendre la vie. À ces gens-là qui ont passé à travers, qui se sont rendus jusque dans la vieillesse, quand ils sont décédés, leur âme est au ciel. Mais ils n'ont pas encore leur corps. Ils vont avoir leur corps uniquement à la résurrection. Moi, j'ai trouvé que j'avais étudié le passage avec l'aide de plusieurs commentateurs. Ça aide souvent parce que des fois, un certain commentateur trouve une position qui est vraiment intelligente. Et je trouve que dans ce temps-là, ça ne sert pas à grand-chose d'essayer de réinventer la roue. Quand c'est bien dit... Je pense le citer en autant que je dis que c'est pour moi qui ai écrit ça. Là. C'est Paulin Bédard. Paulin Bédard qui est pasteur réformé à Saint-Georges. Alors lui, il veut nous faire comprendre la relation qu'il y a entre les trois premiers versets du chapitre 20 et les trois derniers versets, 4 à 6. Il veut nous faire comprendre le lien qu'il y a entre les deux. Et je trouve que ce qui est écrit est vraiment intelligent. Il dit, nous avons vu la première partie concernant l'enchaînement de Satan. Nous avions conclu que Satan est actuellement lié pendant toute la période du Nouveau Testament pour que l'Évangile puisse progresser dans le monde. Les versets 1 à 3 nous avaient fait voir les conséquences terrestres du règne actuel de Jésus. Les versets 4 à 6 que nous allons étudier nous font voir les conséquences célestes. Alors, on voit la différence de son règne actuel. Ces versets 4 à 6 nous décrivent le règne de 1000 ans, exercé par Jésus-Christ, et par ceux qu'il a ramenés à la vie. Il est donc clair que le règne de mille ans, dont il est question dans notre passage, doit se produire avant son retour et non après. Tout comme l'enchaînement de Satan, ce règne s'étend de la première venue de Jésus jusqu'à son retour. Mais si on veut comprendre, les auteurs que j'ai utilisés disent toutes la même chose. La difficulté de compréhension de ce passage-là, c'est la signification de qu'est-ce que c'est la première résurrection. Les prémillénaristes, les dispensationalistes, ils disent que c'est la résurrection physique. Mais en disant qu'il c'est la résurrection physique, ils sont en train de dire qu'il y aurait deux résurrections, alors que les Écritures, dans plusieurs versets, nous disent qu'il y en a une seule. Alors, il y en a un des deux qui est dans l'erreur, ça c'est certain. Alors, la première résurrection, on va revenir sur cette idée-là aussi. Chose importante aussi, si tu trouves juste un auteur qui dit une chose, ben, ça a son poids, mais Joel Beakey, peut-être de plusieurs qui ne le connaissent pas ici, mais c'est un gars aux États-Unis, c'est un pasteur très connu, très en demande. Ce gars-là, si tu veux l'avoir pour prêcher chez vous dans une grosse église, il faut que tu te prennes 2 à 3 ans d'avance. Ils sont bookés, c'est des prédicateurs de haut niveau. Alors, lui, il écrit un commentaire sur l'Apocalypse et il vient donner son idée, lui aussi, sur ce qu'il croit que ces versets-là veulent dire. Je l'ai mis en anglais parce que je ne veux pas traduire les choses dont les gens ne peuvent pas voir si ma traduction est correcte. C'est Google qui traduit ça, parce que c'est pas facile à traduire de l'anglais théologique. Il faut s'atteler, comme on dit. Mais j'ai pris les mots exacts de ce qu'il dit, je les ai mis dans Google Traduction, et après je regarde s'il y a des petites affaires qui méritent d'être corrigées, et s'il y a des affaires qui méritent d'être corrigées, j'essaye de les corriger, pour que ça soit le plus fidèle à sa pensée. Alors, je vous dis ce qu'il dit, la traduction française de ce que lui donne dans son commentaire par rapport à ces versets-là. Il dit « Cette vision est parallèle à la précédente. » Donc, pendant quelque chose se passe sur la terre, il y a quelque chose qui se passe au ciel. C'est ça qu'il veut dire, c'est parallèle. Ça se passe en même temps, mais un sur la terre, l'autre au ciel. Ainsi, la liaison de Satan et le règne des saints se produisent en même temps. Mais dans quel sens pouvons-nous parler des saints régnant dans cet âge de l'Évangile? Il dit, c'est un passage difficile à bien comprendre. La clé pour l'interpréter est le verset 5 qui fait référence à la première résurrection. Le règne des saints semble être synonyme de la première résurrection qui n'est pas la résurrection des corps. Ça, c'est important, si on ne saisit pas ça, là, quelque part, on reste mêlé. Qui n'est pas la résurrection des corps, car Jean dit qu'il ne voit que les âmes des martyrs. Donc, ça ne peut pas qu'un martyr, il n'y a pas de voix, son corps, il est au ciel avec le Seigneur. Ainsi, la première résurrection est une résurrection de l'âme, pas du corps. C'est une résurrection spirituelle et céleste. Et on va voir tantôt d'autres versets dans les Écritures qui nous parlent du fait qu'on est mort avec Christ, en Christ, qu'on est ressuscité avec lui et qu'on est assis avec lui. Comment on peut être ressuscité si on n'a pas notre corps? Si ce n'est pas le fait que tu étais mort spirituellement, Dieu t'a donné la vie. C'est ça la résurrection. C'est une résurrection spirituelle. Ce n'est pas la résurrection physique. On va aller un peu plus dans cette idée-là tantôt. Donc, on va regarder la première idée qu'on veut voir. C'est vraiment que le règne des âmes qui sont déjà décédées sont avec Jésus. Qui bénéficie de ça? Alors, le verset 4 est clair là-dessus. « Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes. » Et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour lire le témoignage de Jésus. Décapité, ça veut dire la tête coupée. Et pour la parole de Dieu, Donc, il y en a qui ont témoigné pour Jésus, ou il y en a d'autres qui ont affirmé la parole de Dieu. Ça les a coûté. On sait, toute l'histoire est pleine d'exemples de personnes, ceux qui ont traduit la Bible d'un premier, qui l'ont fait circuler. Il y en a que ça les a coûté le bûcher, être brûlé vivant, toutes sortes d'affaires comme ça. Alors, il dit qu'il voit les âmes, ils sont assis sur des trônes que Dieu leur a donné d'être capable de juger avec lui. Il dit pour la parole de Dieu, « Et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains, ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. » Si on prend le 1000 ans, qui veut dire la même chose que dans les versets 1 à 3, ça veut dire que ces gens-là, durant tout le temps que l'action se passe sur la terre, l'Évangile est répandu, eux sont déjà au ciel et ils règnent déjà avec Christ. Mais ils n'ont pas leur corps encore. Ça va se faire uniquement à la fin, à la toute fin. Il y en a une résurrection. C'est pour ça que ceux qui disent, ici les prémillénaristes et les dispensationalistes disent que c'est la résurrection des corps. Et ils disent qu'ils rentrent dans le mille ans littéral pour... Alors, ça ne peut pas être les deux. Là. Ou c'est un ou c'est l'autre. Moi, je suis persuadé que ce n'est pas la résurrection physique. Parce qu'on va le voir plus tard dans d'autres versets où on va voir la confirmation. Alors, la nature du règne des âmes. À quel endroit ces trônes se trouvent-ils? Je pense que c'est clair. C'est au ciel. Les dispensationalistes affirment que c'est sur terre, à Jérusalem. Ça fait toute une différence. Là. Ou c'est au ciel, ou c'est sur terre. À peu près les deux en même temps. Le texte ne dit pas une telle chose. Le pasteur Paulin Bédard précise que le mot « trône » est employé 47 fois dans le livre de l'Apocalypse. Sur ce nombre de 47, le mot désigne un trône terrestre seulement 3 fois. Quand on regarde un mot, c'est important d'analyser dans quel contexte le mot est utilisé. S'il était utilisé 47 fois, puis que sur les 47 fois, il y a juste 3 fois qu'on parle de physique, de trône, il dit ici, on parle de trône spirituel. Par ailleurs, ces trônes sont situés au ciel. Il est normal de croire que c'est encore le cas dans ce passage. Nous croyons que le mot « âme » dans le présent contexte désigne les âmes désincarnées des croyants qui sont déjà morts. On l'a mentionné tantôt. C'est les martyrs et c'est tous les chrétiens de tous les siècles qui sont décédés, soit qui ont eu beaucoup de persécutions, soit qui n'ont eu peu. C'est tout simplement les âmes des chrétiens qui sont montées au ciel à leur mort. Donc, le règne des croyants déjà décédés consiste à recevoir l'autorité de juger. Autrement dit, Christ est au ciel, on va voir des versets tantôt, est au ciel, il règne déjà. Et ça nous dit, il y a des versets qui nous disent qu'on est déjà en lui, et étant en lui, même si on est encore sur la terre, on participe en quelque sorte au jugement nous aussi. Alors, Jean les voit vivants, ces gens-là qui sont décédés, non pas dans le sens qu'ils posséderaient leur corps, mais dans le sens qu'ils se réjouissent de la vie au ciel en communion avec Jésus-Christ. Ce règne céleste est l'accomplissement de la promesse qui est faite aux vainqueurs. En retournant dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, le Seigneur avait dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. » C'est intéressant, hein, quand on s'arrête au mot. « Je le ferai asseoir avec moi. » Comme moi aussi, j'ai vaincu et je suis avec mon Père sur son trône. Voyez-vous, il y a deux trônes. Il dit, ceux qui ont vaincu sont en moi et ils règnent avec moi. Et moi, je suis déjà assis sur le trône du Père. Imaginez-vous la position que ça nous donne à nous? Assez extraordinaire. Nous devons nous rappeler que Jésus s'est assis sur son trône avec son Père lors de son ascension. Plusieurs passages du Nouveau Testament nous affirment que déjà durant cette vie terrestre, les chrétiens ont commencé à participer à la résurrection de Jésus et à régner avec lui. vraiment, on pourra les porter. Plus que ça, c'est pas. Mais c'est des passages qui sont forts. Il y en a d'autres, là, mais au moins, ces deux-là sont forts d'une façon particulière. Éphésiens, chapitre 2, versets 5 et 6. Lorsque nous étions morts dans nos fautes, c'est qui ça? C'est nous. Nous a rendus à la vie ensemble en Christ. Vous, quand on parle tout à l'heure de première résurrection, là, maintenant on fait les liens. Là. Il nous a rendus à la vie. Quand on est mort, puis quelqu'un nous rend à la vie, c'est quoi? C'est pas une résurrection. Il y a deux résurrections. Il y a la première résurrection qui peut être comprise comme la régénération, puis il y a l'autre qui peut être comprise comme la résurrection avec ton corps, la réunification de ton corps avec ton âme. Parce que là, verset qu'on connaît bien, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble. Ça veut dire que quand Christ est ressuscité, là, tous ceux que le Père lui avait donnés de toute éternité ont ressuscité en lui, et on est déjà dans le ciel, assis avec lui, en train de participer au jugement. Parce qu'il dit qu'il nous a donné la capacité de juger. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Okay. Où qui est Jésus-Christ maintenant? Au ciel. Il est assis à la droite du Père. Est-ce qu'on est en lui?
Oui,
c'est ça que les Écritures nous disent, il faut prendre conscience de ça. C'est ce qui rend notre salut aussi sûr. Si on est vraiment régénéré et qu'on croit que Jésus, ce que les Écritures disent, sont vrais, on sait que déjà, il est au ciel, puis nous, on est en lui. On est ressuscité avec lui, puis on est assis au ciel avec lui. C'est ce qui rend notre chose, notre force. Puis on a aussi le Colossiens, chapitre 3, verset 1, il dit... Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Encore une autre observation de Paulin Bédard. Je trouve que c'est important d'y faire parce que il résume bien tout un passage. Il dit, nous avons déjà la joie sur cette terre d'être unis à la mort, et à la résurrection de notre Sauveur. Ce sera encore plus merveilleux lorsque nous quitterons cette terre lors de notre mort et que notre âme ira rejoindre le Seigneur exalté dans son règne. Lorsqu'il décide de retirer de cette vie ses fidèles, il les fait entrer dans la joie de sa présence et dans la plénitude de son règne au ciel. Il faut prendre conscience de ça. On est déjà en lui. On est déjà en train de juger avec lui. Nous n'avons pas à attendre un supposé millénium terrestre dans un monde encore déchu pour que cette promesse s'accomplisse. Quand on dit que c'est une résurrection physique pendant les mille ans, on est en train de dire que les croyants qui sont morts auraient leur corps et ils régneraient en même temps que des inconvertis. La Bible n'enseigne pas ça. C'est ma conviction, en tout cas. Elle s'accomplit dès le moment de notre mort. Nous pouvons donc parler d'un millénium déjà inauguré. C'est pour ça qu'on s'appelle les amillénaristes, l'amillénarisme inauguré. Et d'un règne actuel qui va durer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ces gens-là qui sont au ciel, pendant que toute l'action se fait de la diffusion de l'Évangile, eux sont là et ça va durer jusqu'à la fin. À la fin, quand Christ va détruire ses ennemis, en même temps, la résurrection va arriver à la fois des justes et des injustes. Les justes vont retrouver leur corps et les injustes aussi. Les justes pour vivre éternellement avec Jésus-Christ durant toute l'éternité. Les injustes pour vivre avec leur corps éternellement, mais dans l'enfer. Il dit, rappelons-nous que le livre de l'Apocalypse est destiné à des chrétiens subissant la persécution. Certains d'entre eux sont morts à cause de leur foi. Quel grand réconfort pour l'Église d'entendre ces paroles victorieuses. Jean voit leurs âmes qui règnent sur des trônes. Parfois, au milieu des épreuves difficiles à supporter, parfois subissant la mort cruelle, ces chrétiens par la grâce de Dieu, persévéraient fidèlement dans leur témoignage en ayant cette grande promesse de victoire. Quand ils étaient maltraités, persécutés, ridiculisés à cause de leur foi, ils avaient la meilleure promesse que ces mauvais traitements allaient se transformer en un règne glorieux. Dès leur mort, ils vont rejoindre le Seigneur de l'univers qui est assis à la droite de son Père dans le ciel et qui règne déjà sur l'univers entier. Maintenant, les bénéficiaires, on les identifie, c'est clair. Le texte le dit, on n'a pas besoin de vraiment d'un gros sens de l'interprétation ici. Là. Qui sont ceux qui ont le privilège de participer au règne du Christ dans cette vision? Deux caractéristiques. Ils sont ceux qui ont souffert le martyr et ceux qui ont refusé la marque de la bête et l'adoration du système de l'Antichrist. Alors, ceux qui sont demeurés loyaux envers leur sauveur, soit qui ont perdu la vie, ou soit qui ont risqué leur vie pour leur roi, eux sont là au ciel, puis ça va durer 1000 ans. La même période que ceux qui voient le côté diffusion de l'Évangile sur la terre en attendant. Maintenant, quels sont les bénéfices de ce règne-là? Bien, premièrement, c'est une participation à l'œuvre de jugement de Christ. Les âmes des rachetés loue Christ pour la perfection et la droiture de ses jugements. Il chante sans cesse, « Tes jugements sont justes et véritables ». Fort probablement que ces gens-là, étant en Christ, Dieu permet qu'ils voient qu'est-ce qu'il leur envoie comme jugement. Puis qu'est-ce qu'ils disent, eux? « Tes jugements sont justes et véritables ». Deuxième bénéfice, c'est une vie avec Christ. Les gens qui sont au ciel ont déjà la vie avec Jésus dans le ciel. C'est la félicité complète et le bonheur absolu. Même si on essaye de comprendre ça, on a de la misère parce qu'on comprend tellement un peu ce que c'est de ne pas avoir de problème, jamais aucun, zéro. C'est la perfection, le bonheur absolu. Il n'y a plus de mal, il n'y a plus rien qui te fait souffrir, t'es complètement libéré de ça, tu es dans la joie complète pour l'éternité. Et troisième bénéfice, c'est une participation à la gloire royale de Christ. Toutes leurs prières sont exaucées, tous leurs vœux sont comblés. Alors, c'est très important, ces bénéfices-là. Deuxième point qu'on va regarder, c'est le règne des âmes avec Jésus, c'est exclusion. Autrement dit, là, on est en train de dire qui va participer. En un mot, c'est simple, c'est les croyants, les véritables croyants, qu'ils soient martyrs ou non. Maintenant, qui est exclu? Mais ça dit, verset 5, « Mais le reste des morts ne ressuscita point jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » C'est là la première résurrection. Tous les auteurs que tu consultes qui sont, on dirait qu'on peut leur donner du crédit, disent que c'est la plus grande difficulté de l'interprétation du chapitre 20, verset 5. C'est quoi la première résurrection? Et là, dépendamment de ton choix, ça a des répercussions énormes sur toute ton eschatologie. Alors, les incroyants ne reviennent pas à la vie avant que les 1000 ans soient accomplis. William Hendrickson, ceux qui ont le petit livre, là, Apocalypse plus que vainqueur. Prenez la section où on parle du chapitre qu'on étudie. Relisez-la. Des fois, il n'y a rien qu'une page, une page et demie, deux pages, des fois. Ça vaut vraiment la peine, hein? Parce qu'il nous ramène à une compréhension du texte que je trouve très importante. Voici ce qu'il dit, lui, pour la question des morts qui ne ressuscitent point jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. William Hendrickson mentionne, à la fin de cette période, les choses changeront et ils connaîtront la seconde mort. Autrement dit, ceux qui sont morts, qui n'appartenaient pas à Jésus, sont morts, sont enterrés, sont morts. La deuxième mort, ce que les Écritures appellent la deuxième mort, c'est quand ils vont être plongés vivants, dans le lac de feu, pour l'éternité, mais cette fois avec leur, pas juste l'âme. Parce que ceux qui meurent sans Christ sont déjà dans, pas penser plus ça l'enfer, parce que l'enfer, c'est quand ils vont être réunis avec leur corps. Mais c'est quelque chose, ils savent déjà où ils vont s'en aller, puis ils souffrent déjà la même chose que s'ils étaient avec leur corps. C'est la seconde mort. En d'autres termes, ils recevront la punition éternelle, non seulement dans leur âme, mais également dans leur corps. Par contre, ceux qui ont part à la première résurrection connaîtront le bonheur. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Autrement dit, quand tu es rendu au ciel, quand il va arriver le jugement, tu es déjà au ciel. La mort dont on parle, qui serait possible que tu puisses avoir, c'est exclu. Tu ne peux pas aller là. Non seulement ils régneront avec Christ, mais ils adoreront aussi Dieu en Christ comme sacrificateur durant les 1000 ans. Alors, on se doit maintenant d'examiner ce que signifie « c'est la première résurrection ». Becky affirme que ce n'est pas possible qu'il s'agisse ici de la résurrection du corps, mais de la résurrection spirituelle et céleste. Moi, je suis convaincu qu'il y a raison. C'est bon, c'est mon avis. Qu'est-ce qu'enseignent les Écritures? C'est pour là qu'il faut, des fois, il faut pas regarder uniquement le passage qu'on est en train d'étudier, mais d'aller voir dans d'autres passages des Écritures, est-ce que les Écritures enseignent qu'il y a deux résurrections ou est-ce qu'elles enseignent qu'il y en a une? C'est ça qui décide, à un moment donné, nos choix. Je suis persuadé que c'est une résurrection. Jean, chapitre 5, versets 28 à 29. « Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront, savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. » On a aussi acte 24, verset 15. « En ayant en Dieu cette espérance que la résurrection des morts, regardez bien les mots, tant des justes que des injustes qu'ils attendent eux-mêmes arrivera. » Et Jean 11, verset 23-25, très important aussi. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Dans quel passage? Lazare, ton frère ressuscitera. Il dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe lui répondit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. Et autre argument assez fort, je trouve que c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 22-26. Car comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en son propre rang. Christ est les prémices, et ensuite ceux qui sont de Christ à son événement. J'ai pris à peine de vous le souligner, à son événement. Ceux qui sont de Christ à son événement. Après cela viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir détruit tout empire, toute dénomination et toute puissance. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, l'ennemi qui sera détruit le dernier, c'est la mort. Alors, que signifie la première résurrection? J'ai beaucoup apprécié Joel Becky, parce que lui prend vraiment le temps de tout développer cette idée-là. Voici ce qu'il dit, je vous le résume parce que c'est long, là, mais je pense que j'avais les principales idées. Alors, le pasteur et commentateur Joel Becky donne sa réponse. Il croit que l'expression « la première résurrection » veut dire deux choses. Premièrement, il croit que ça peut se référer à ce qu'on appelle l'état intermédiaire. Autrement dit, tu meurs, quelqu'un qui est croyant s'en va avec Christ déjà, mais juste en son âme. Quelqu'un qui meurt, qui n'est pas sauvé, il s'en va dans un lieu où il commence déjà à souffrir, mais il va recevoir éventuellement son corps. Donc, il parle de l'état intermédiaire. Il dit que dans le passage, ici, on parle de l'état intermédiaire. Mais il dit que ça peut vouloir dire une deuxième chose. La deuxième chose, il dit que ça peut vouloir se référer à la présente réalité, à quelque chose qu'on vit déjà. Qu'est-ce qu'il veut dire? On va aller regarder les passages d'Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 7. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de la grande charité dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble en Christ. » Alors, il y a un aspect que c'est l'endroit où les âmes attendent de la réunification avec leur corps, mais aussi qu'on se doit de réaliser que c'est déjà une réalité pour nous. On est en lui. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Et verset 6, il nous a ressuscités ensemble. Et là, il parle à des croyants qui sont encore sur la terre, qui ont encore leur corps, qui ne sont pas morts encore. Il dit, il nous a ressuscités ensemble, donc c'est possible qu'il y ait une résurrection qui ne soit pas de nature physique. Il y a une résurrection, d'après les Écritures, on est ressuscité ensemble avec Jésus, donc c'est une résurrection de nature spirituelle. Et il nous dit aussi, et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous, Jésus-Christ. Je vous donne sa conclusion en la traduction française, dans Google. Il dit, le règne des saints ne concerne pas seulement l'état intermédiaire. Je crois que les bien-aimés des chrétiens qui nous ont précédés règnent maintenant avec le Christ. Et cela me réconforte beaucoup. Mais je crois aussi que le règne des saints est une réalité biblique présente. Dieu nous a fait roi et prêtre par Jésus-Christ sur cette terre. Oui, il prend les deux positions, puis il dit, ça veut dire les deux en même temps. Puis je trouve que c'est très intelligent. Troisième point, le règne des âmes avec Jésus, ses explications, ça nous dit, heureux et saint, celui qui a part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et régneront avec lui 1000 ans. Alors, on va regarder qu'est-ce que signifie l'expression « heureux et saint ». Bien sûr, si vous avez traversé, vous êtes décédé, soit comme martyr ou soit comme chrétien, peu importe qu'est-ce que vous avez vécu sur la terre, vous êtes déjà heureux. Et saint, parfaitement saint, parce qu'on a été sanctifié, la justice de Christ nous a été imputée, et on a aussi... Christ a subi le châtiment que nous aurions dû recevoir pour nos péchés, il l'a reçu à notre place. Alors, on est heureux et saint. Alors, Christ a accepté de souffrir et même de mourir. Il y a certains chrétiens qui sont morts pour leur foi. Ils sont parfaitement heureux dans l'état intermédiaire sans leur corps. Comment vous en connaissez des gens qui sont décédés, qui étaient des chrétiens? Ils sont au ciel, leur corps est dans la terre, ou brûlé, n'importe comment. Mais ça veut dire qu'à l'actuel, ils sont au ciel avec Jésus, mais leur âme seulement. Ça va seulement à la fin complète, quand Jésus va avoir détruit l'ensemble de ses ennemis, que là, tu vas recevoir ton corps. La résurrection physique, elle va se produire là, autant pour les justes que pour les injustes. Donc, il dit, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ceux qui sont déjà au ciel, on a des bien-aimés, on a tous des bien-aimés qui sont déjà décédés. On sait qu'ils sont au ciel, mais ils sont parfaitement heureux. Mais un jour, Dieu va leur redonner leur corps. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que quand je vais dans un cimetière, là, puis que je fais les cérémonies, là, les gens écoutent ce que je dis. Mais je ne suis pas sûr qu'ils comprennent vraiment ce qu'on est en train de dire. Parce que les versets sont là, les versets sont vrais. Mais quand on dit la personne s'en va en terre, là, on sait qu'elle va être mangée par les vers. Mais d'un autre côté, Dieu dit, ton corps qui, là, va périr dans la terre, un jour, tu vas le récupérer, un corps parfait, un corps... c'est extraordinaire. Donc, autre chose qu'il nous dit, c'est qu'ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Alors, ceux qui persévèrent dans la foi durant cette vie occuperont les fonctions importantes de sacrificateurs et de rois à leur mort. Imaginez, nous, des rois. Il dit pas prince, là. Il dit roi. On va être des rois. Sacrificateur, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Apocalypse, chapitre 1, versets 5 et 6. « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, et qui nous a fait roi et sacrificateur de Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. » Donc, il y a deux idées à retenir là-dedans. C'est l'idée qu'il va faire de nous des rois. Le roi Marcel, je vais y penser. la reine Chloé aussi. OK. Apocalypse 3, 21. Comme roi, nous règnerons éternellement avec Christ et avec Dieu le Père. Ça dit, celui qui vaincra, ici Jésus qui parle, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Un petit trône, ça. Comme moi aussi j'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père sur son trône. Alors ça fait des trônes pas mal. Ça veut dire qu'on est assis sur le trône de Christ, et on est assis, à cause que Christ est assis sur le trône du Père, on est assis sur les deux. C'est extraordinaire. Romains chapitre 12, quand on parle de sacrificateur, ces gens-là sont au ciel déjà, qu'est-ce qu'ils vont avoir? La fonction de sacrificateur va consister en quoi? Ils vont offrir à Dieu un vivant sacrifice de reconnaissance. Autrement dit, le temps de ton éternité va être un sacrifice de reconnaissance à Dieu. Tu vas reconnaître tout ce qu'il a fait pour lui, tu vas découvrir vraiment tout le côté fantastique de ça. On ne le réalise pas encore. Mais quand on va être l'autre bord, si Dieu nous donne de voir là où on aurait été s'il n'était intervenu, si on avait reçu sa grâce, là on va réaliser. Là on va allumer, comme on dit. Alors, comme sacrificateur, et aussi 1 Pierre, chapitre 2, versets 5 et 9, qui parle de notre rôle comme sacrificateur. Alors, quand on est des sacrificateurs, on annonce les vertus de Christ. On est au ciel, puis on va annoncer les vertus de Christ. Selon vous, comment ça va nous prendre de temps avant qu'on ait épuisé le sujet? L'éternité. On n'aura jamais fini d'épuiser le sujet des vertus de Christ. Alors, ça dit dans le verset 5, « Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Verset 9, « Mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la merveilleuse lumière. » Quand on va réaliser pleinement le sens de ça, là, c'est ça notre rôle de sacrificateur. On va être dans un esprit de reconnaissance éternelle et de découverte de ce que Christ a fait pour nous. Alors, trois applications rapides. Louons le Seigneur pour la solidité absolue du salut éternel qu'il nous a accordé. Si nous l'avons authentiquement reçu, il est acquis et garanti de façon irréversible. Y a-t-il quelque chose de plus extraordinaire que ça? Que si tu es vraiment sauvé, si tu as vraiment reçu le salut, il n'y a rien qui peut te l'enlever. Quand Dieu donne quelque chose, là, il le donne et c'est irréversible. Ça, c'est quelque chose de... Parce que des fois, si on n'aurait pas ça, on dirait, je fais tellement dur, tellement de manquements. Tu serais peut-être découragé. Tu te décourages parce que tu as les yeux centrés sur toi. Mais dès que tu te mets les yeux centrés sur Christ, toute la game change. Il nous a donné le salut et on ne peut pas le perdre. Moi, là-dessus, je suis d'une conviction dure comme de l'acier. Si on l'a, ben là, tout est dans le si. Si tu l'as vraiment reçu. Alors, Romains 8, versets 38 et 39 nous rappellent cela. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quel beau passage! Autrement dit, si tu es sauvé, il n'y a rien à faire, il n'y a pas personne qui peut t'enlever de la main. C'est extraordinaire, hein, parce qu'on se dit, même si ça vient qu'à mal tourner, puis qu'il y aurait une persécution, puis qu'il nous tuerait, qu'il nous emprisonnerait, qu'il nous... Ils ne peuvent rien faire! Notre salut est assuré de toute façon. Deuxième application. Connaissant le terrible sort des incroyants, qui est la perdition éternelle, partageons l'Évangile avec plus de zèle et prions avec plus de ferveur et de régularité pour le salut de l'âme de nos enfants, de nos amis, de nos collègues de travail, etc., etc. Demandons au Seigneur l'amour des âmes. Je ne dis pas qu'on ne l'a pas pantoute, là, mais je pense qu'il y a place à amélioration pas mal. Et troisième application, la félicité éternelle consistera à être des rois et des sacrificateurs pour Christ et pour Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, soit béni, loué et adoré éternellement. Amen.